France Culture, 12h50, des papous dans la tête, on retrouve Françoise Tressard et toute son équipe.
Les papous dans la tête!
Alors bonjour, Françoise Tressard et la belle équipe, en direct du salon Livre Paris jusqu'à 12h58, 13h58, merci Lucas.
Bonjour.
Avec Jacques Jouet, Serge Joncourt, Jean-Bernard Pouy, Patrick Beignet, Lucas Fournier, donc qui connaît très bien l'heure de l'émission et qui sait qu'elle est partie très en retard, Eva Almassy, Gérard Mordilla, Odile Conseil, Ricardo Mosner, Jeanne Carillon et Pablo Gignoli au bandoneon. Merci Pablo. Et on va commencer. Ouais. On va commencer par jouer avec les mots de la francophonie. Vous savez que tous les ans, la francophonie se fête, la semaine du Salon du Livre, et elle met à l'honneur 10 mots. Alors, cette année, les mots choisis sont des mots qui ont un double sens. Ils fonctionnent à la fois dans le monde virtuel, le monde d'Internet, et puis dans le monde réel. Donc, les mots avatar, canular, émoticône. Vous savez, Serge, ce que ça veut dire, émoticône?
Oui, je peux le mimer, si vous voulez.
Oui, merci. C'est un smiley. Ouais. Bravo. Favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate et télésnobé. Ça veut dire quoi, Serge?
Télésnobé, ouais. De regarder sa télévision de dos. Enfin,
Non. Alors, télésnobé, c'est ce que font plein de gens. C'est ouvrir leur téléphone mobile alors qu'ils sont avec d'autres personnes, éventuellement leurs amoureux, et regarder leurs textos ou faire des photos, ils vous télésnobent.
Je fais pas ça.
Alors, ces mots sont des jolis mots à double sens. Et j'ai demandé à 4 auteurs papous d'écrire un roman express avec eux et de choisir à chaque fois 2, 3 des mots, selon les chapitres. Jacques Jouet, vous êtes le premier, vous avez choisi quel mot ?
J'ai choisi le mot favori, parce que c'est mon mot, le mot que je préfère, en fait. Et puis héberger, parce que c'est un mot que j'aime pas.
Ah, vous trouvez qu'on n'héberge pas assez, c'est ça ?
Voilà, oui.
D'accord. Alors, c'est parti, vous soulignez les mots avec la grenouille.
J'ai trouvé un travail sur le net. Il m'avait bien semblé que j'avais le profil. Cherche jeune femme décidée, n'ayant pas peur de dormir à la belle étoile entourée d'animaux. J'ai appelé au numéro, on m'a dit, vous savez pas lire ? Cherche jeune femme. Justement, je réponds, un vieil homme ferait aussi bien l'affaire. C'est quoi vos animaux ? Moi, ma spécialité, c'est les moutons. Ce sont vraiment mes animaux favoris. Ça tombait bien, c'était un boulot saisonnier dans le domaine de la laine sur pied. Attention, c'est la montagne et la nuit qui vont vous héberger. Pas de problème. C'est comme ça que j'ai eu le poste. C'était dans le Vercors, je leur ai dit, dans le Vercors en plus, il faut vraiment quelqu'un de résistant. Et me voilà parti. Et me voilà parti. La première nuit, j'ai dormi sur mes deux oreilles avec mes ouailles. C'est la deuxième nuit que ça s'est gâté, pour la bonne raison que j'ai commencé à entendre des voix bizarres. Hé, berger.
Fin du premier chapitre. Alors, effectivement, héberger. Odile Conseil, vous prenez le relais avec le même nombre de lignes, c'est-à-dire 15 lignes.
Je confirme.
Ouais. Et les mots choisis ?
Émoticône et nuage. Nuage parce que j'aime les regarder et émoticône parce que j'ai décidé d'être sympathique avec mes camarades d'après et de leur éviter d'avoir à placer ce mot.
D'accord.
J'ai d'abord joué l'indifférence. C'est certainement le bruit du vent dans les arbres, me suis-je dit. Mais il n'y avait aucun arbre alentour et pas plus de vent. La voix insistait. Yann. Vous aurez deviné que je m'appelle Yann. Je l'ignorais, la voix. Je n'étais pas venu là pour me faire réveiller au milieu de la nuit. Je m'en fus cueillir de nuages de laine sur le dos d'un agneau et me les fourrais dans les oreilles. Avant de me rendormir, je comptais les ovins. Ils étaient 20 au complet. Yann, il faut que je te parle. La voix était passée en mode hurlement qui transperça la laine de mes oreilles et mes tympans. Pendant un moment, je dus ressembler au smiley, à l'émoticône rouge de rage.
C'est plus difficile que smiley, il faut bien dire. Hein.
Mais cette voix qui venait de surgir hors de la nuit et courait dans la nature au galop, cette voix, je la connaissais. C'était celle de mon paternel, de mon vieux. Que pouvait-il bien me vouloir à cette heure-ci ? Oui, vieux, vas-y, je t'écoute. Je suis toutouïe au milieu de mes ouailles.
Bon, c'est joli, c'est assez psychologique comme roman. Donc, Patrick Beignet, vous prenez le relais. Vous aviez le droit de choisir 3 mots et de faire 22 lignes.
Exactement, ouais. J'ai choisi pirate, avatar et canular.
Ouais.
3 jours plus tard, j'étais à Bénarès. La nuit tombait sur le Gange immémorial et la lune commençait à briller comme dans un récit de Chateaubriand. Comment étais-je passé des hauteurs du Vercors à l'Inde fascinante et colorée ? La voix terrible de mon père m'avait intimé l'ordre de partir pour Bénarès afin de retrouver le trésor de Rackham le Rouge, le célèbre pirate dont descend notre famille. Le trésor était enfoui sous le rocher de Shiva, situé au milieu du Gange. Cette mission tombait bien, car de toute façon, j'en avais assez du Vercors et de ces moutons stupides, et je ne supportais plus ces foutus nuages de laine dans mes oreilles. « À bas le Vercors !» m'étais-je écrié. « Vive Bénarès ! Vive le Gange immémorial ! Vive l'exotisme !» Pour m'occuper pendant le voyage, j'avais emporté « Avatar », l'excellent petit roman indien de Théophile Gautier. Comme vous le savez, avatar est un terme d'origine sanscrite. J'avais aussi emporté le tour du monde en 80 jours pour relire les pages où Phileas Fogg arrive à Bénarès après avoir arraché la belle Mrs. Aouda au bûcher des veuves. J'ai toujours pensé que cet épisode était un canular de Jules Verne destiné à se faire bien voir des féministes. Mais je me trompe peut-être. À 11 heures, un nuage vint heureusement masquer la lune. J'ôtais mes vêtements et, nu, je plongeais mon corps musculeux dans le Gange immémorial pour nager jusqu'à la statue de Shiva sous laquelle dormait le trésor de Rackham le Rouge.
Waouh, on va tout savoir, bravo. Quatrième et dernier chapitre avec Lucas Fournier.
J'ai donc choisi les 3 qui restaient.
Ouais.
Nomade, fureteur et télésnobé. Il y a 2 dieux en Inde, Shiva la guerre et Vishnu la paix. Sortant nu du Gange immémorial, je fis face à la statue. Shiva, nu, m'offrit ses bras grands ouverts. Enfin, pas tous, 2 bras seulement. Les autres tenaient une tablette et jouaient sur l'application Avatar. Bref, elle me télésnobait. J'en profitais pour plonger sous la statue à la recherche du trésor de Rackham le Rouge. Oh, certes, depuis Tintin, le trésor est censé être revenu à Moulinsart, mais comme Moulinsart n'a jamais existé, le trésor est donc ailleurs. Sous la statue s'ouvrait un escalier sombre, tel celui du tombeau de Tauzer, décrit par Théophile Gautier dans le roman de la momie. En bas, je tombais nez à nez avec le capitaine Haddock lui-même. J'approchais donc du but. Il avait l'air fureteur de celui qui cherche du whisky. Je lui indiquais qu'il y avait Shivaz au-dessus. Et j'avançais nu dans le souterrain. Et là, stupeur et tremblante du mouton, je vis un coffre gardé par un mouton, le fameux mouton sacré de l'Inde. « Bé !» fit le mouton. Ce qui veut dire « Étranger, si tu veux le trésor, réponds à mon énigme. Sinon, tu finiras en curry d'agneau à l'indienne. Quel est l'animal qui a 4 pattes le matin, 1 à midi et le soir n'en a plus ?» Élémentaire, mon cher Mérinos. C'est le mouton. Agneau le matin, gigot flageolé à midi et tout manger le soir. J'ouvris le coffre. Il y avait un gilet de laine rouge comme Rackham. Un vieux pullover rouge. C'était ça le trésor. Oui, fit le mouton. La laine n'est pas fraîche. Mais c'est Pénélope qui l'a tissé pour Ulysse. Avec la laine du mouton qui lui avait permis d'échapper au cyclope Polyphème. Bon, moi, toutes ces histoires de moutons commençaient à me courir sur le haricot. Je mis là un terme à mon odyssée nomade et m'en retournai, nu, vers le Vercors en chantonnant du Michel Berger. bien sûr, et Allegro Manon Troupeau.
Jeanne Carillon chante en direct pour les papous dans la tête. Ça s'appelle Bric-à-brac, la chanson qu'elle a imaginée. Elle est accompagnée au bandoneon par Pablo Gignoli. Musique.
C'était un micmac, idées qui s'entrechoquent. Pêle-mêle dans mon sac, un bric-à-brac, un bric à stylo, bic, un bloc. Note bien que le truc, un peu mastoc, titille mon déclic. Je craque et tac, j'oublie le flop, je veux goûter le sucre d'écrire sans un hic. Et si c'est ça le déclic, chanter, scatter sans panique. Mastiquer bien les mots, frapper des stocks, les sons sur les dents. Allons fabriquer le choc, chacun cherchant le chointement ad hoc. Chatouillons nos chakras, chouillons. Cette chanson sans quoi frappe à ta porte, toc, tu t'es tiré plus là, je suis en roc. T'as oublié ton froc, je voudrais être un roc. Un petit coup d'alambic pour encaisser le choc. Je repense à ta nuque, les baisers en public. Reluque, aujourd'hui c'est cas du cap. J'ai que des larmes en stock pour ce loustic out. Je rêve d'être amnésique. Je prends mes clics et mes claques, ma musique et tous mes fracs, mes breloques chic et mes tongs en plastique en vrac, je les mets dans mon bissac. Direction le tarmac, je suis en flaque, je presse le pas, je vole vers les pics et l'équivoque, mais qu'à l'époque j'oublie le romantique. C'est ma nouvelle tactique, rythmée sur le tic-tac d'une chanson papouche chantée debout, ric-rac en public. Traquons les rimes et le rap, a pas question que ça passe à la trappe. Et toi que j'ai troqué tout mon trac, tout ce bric-brac, ce bric-à-brac, papou, fait de briques et de broc, qui claque dans mon palais mou, jusqu'à l'estomac. On dirait que ça se dénoue. Je me sens d'attaque pour chanter au papou.
Ricardo Mosner, vous voulez bien prendre le micro laissé par Jeanne Carillon? Je crois que vous avez à peu près la même taille. Vous à plat et elle avec ses talons, ça devrait le faire. Et vous allez nous raconter l'histoire homophonique que vous avez imaginée à partir d'une phrase que je vous ai imposée, qui est « Au salon, c'est la fête du roman ». Et c'est vrai en plus.
Oui, c'est vrai.
Donc vous avez imaginé une histoire qui démarre par cette formule « Au salon, c'est la fête du roman » et qui s'achève sur une phrase à peu près homophonique de la première.
Complètement.
Et c'est une première au papou dans la tête. Vous allez être habillé en quelque sorte par le bandoneon de Pablo Gignoli. Alors on y va, musique.
Un homme musclé aux lunettes noires papillonne de stand en stand. Do you understand? Il fait tellement chaud qu'il a enlevé son blouson noir. On voit ses tatouages en cœur, en poignard, en serpent. Le remarque de blonde. Sera-t-il en écrivant? Se demande la plus ronde. Puis, belle gueule est entourée des trois étudiantes. Une est à la Sorbonne, une autre à Hippocagne, la troisième au chômage. C'est bruyant par ici, dit les voyous, à la chômeuse, la plus charmante, aussi la plus entreprenante. Elle a déjà tâtonné ses tatouages, enlacés par les bras velus de la canaille. La brunette se dirige vers la porte du salon, de la porte de Versailles. C'est ce qu'on appelle un coup de foudre. Les deux s'embrassent. Sans plus attendre, il couvre leur tête avec son chandail à elle, un chandail de gitane. Elle lui dit, je suis une écrivaine en mettant son cuir et là une drôle de dégaine. Maintenant il pleut des cordes, la voix grave du type s'entend malgré les bruits tonitruants de la bourrasque qui démarre. Je suis un voleur et un assassin. La femme des lettres, sans boulot, émue, frémit, elle a trouvé un amant et un sujet pour son bouquin. Les ténébreux et la littéraire se réfugient dans une taverne. Il est connu comme les loups blancs dans cette bodega, malfamé et bondé de malfrats. Il commande deux frites et une bouteille d'armagnac. Une autre ça dans mon ardoise, marmonne le bandit. On fait pas de crédit, le garçon à nouveau lui dit. Intervient le patron. Hé, hey, oh, sale con, c'est la dette de mon grand. Au salon, c'est la fête du roman. C'est pour moi. La fille, impressionnée, boit au goulot. Au boulot, dit le gangster. Petite, je vais t'apprendre à voler, à tuer. C'est pas nécessaire, j'en fais mon affaire. Il rigole, il s'enivre. Amour et passion s'ensuivent. La plume des loteuses en herbe s'envole. La langue du bad boy se délie avec l'alcool. Plus les délits sont aberrants, plus les désirs sexuels augmentent. Alors, il raconte tout le splendide monstre. La nouvelle nouvelliste, elle gratte et gratte dans son molle esquine. Elle en fait, la mignonnette, une tragédie divine. 124 chapitres, son roman est prêt. Les plus top des éditeurs s'en emparent. Mais si c'est édité, big problème, Antol il lirait les charmants criminels. Mais non, dit-elle, les tricheries, d'autres circonstances et des fausses adresses. Dans la fiction, c'est ainsi qu'il se passe. I will do a literary prowess. Le délinquant a la dame dans sa peau. Les beaux gars, la peur connaît pas. Et dans sa vie, une seule chose compte, les vices. De toute façon, il n'a jamais fait de prison, puisqu'il est dans la maison, comme on dit, dans la police. Le livre est sorti aux éditions Papelard. Il fait un carton. Jamais une œuvre ne s'est vendue autant. Ils sont perplexes. Ils roulent sur l'or. Mais une angoisse à lui, le crâne lui dévore. Car il reçoit des lettres de quelqu'un qui les livres a lu et qui l'a reconnu. C'est son père. Il lui donne rendez-vous. De sa maison, il était parti très tôt, les sacripants, il n'avait pas 10 ans, il s'était fait la malle en portant son trousseau décroché, son couteau, et de père et mère, leur pognon. Sans s'attarder, le paternel lui montre une photo, c'est une femme qui lui ressemble comme des gouttes d'eau. C'est dans une découpe de journal, c'est une caissière qu'il avait assommée. Elle est morte et son nom elle porte. Il ne lit pas de journaux, les scélérats, il ne savait pas. Soudain, des larmes coulent sur les pommettes du truand. Les salauds regrettent sa maman. Ah. Au salon, c'est la fête du roman. Le salaud regrette sa maman.
Ah, elle est parfaite, parfaite, Ricardo.
Avec Pablo Gignoli, au bandoneon.
Et le papou francophone Ricardo Mosner, qui manie notre langue à merveille. Alors, place maintenant Gérard Mandier. Gérard Mandier, il est arrivé ce matin un peu bougon, il est un peu en colère contre une certaine chose. Ça lui arrive d'ailleurs, mais on le connaît, on lui pardonne. C'est contre quoi aujourd'hui?
C'est contre la véranda.
Et pourquoi? Elle vous embête, la véranda?
Un spectre hante les campagnes, semant l'horreur et la désolation partout où il se manifeste. C'est une maladie mortelle se propageant à la vitesse d'un tsunami. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie, une huitième plaie d'Égypte, des quatre cavaliers de l'Apocalypse, clonés à l'infini. Son nom seul suffit à glacer d'effroi l'honnête homme qui l'entend. Véranda, Véranda. Au début, c'est un rêve anodin partagé par beaucoup. Le ça me suffit, le mon labeur, le domicile adoré, signant sur une portée le bonheur de posséder un petit pavillon. Rien de bien méchant jusqu'au jour où apparaît le prophète de la véranda qui, comme jadis les vendeurs de Bible, va de porte en porte répandre ses arguments méphitiques et vérandesques. Et ça marche. Ça me suffit et vite convaincu que ça ne suffit pas d'avoir un petit chez soi mieux que chez les autres, qu'il faut lui donner un cachet inimitable, afficher sa classe et se distinguer à jamais devant ses voisins, médiocres propriétaires de leurs pauvres habitations. Le reste est un cauchemar. En moins de temps qu'il faut pour le dire, voilà l'excroissance de ferraille et de verre sortie du néant, injuriant le regard, polluant l'espace. Voyant cela, mon labeur trépigne, il enrage. Tant pis pour le voyage à Lourdes, il se met aussitôt au boulot, dévalise menuiserie, vitrerie, serrurerie, et en un mois de travail acharné, une véranda titanesque fait la pige à celle de son voisin. Désormais, domicile adoré a devant sa porte deux gros yeux qu'un dieu cruel et impératif stigmatise de sa petitesse, son avarice, son peu de foi dans la déco, muse de l'amélioration de l'habitat par la véranda à tous et à toutes. Impossible de se dérober au commandement de ce dieu impitoyable. Le salon est ravagé, la cuisine n'a pas le misé, la façade éventrée, défigurée par la tumeur vérandeuse qui fait d'un coquet papillon un elephant home. La maladie est contagieuse, la médecine impuissante, même Ekeros, la déesse de l'architecture, mère de tous les arts, est impuissante à agir. La véranda, c'est le bubon purulent du pestiféré. C'est la tache de vin sur le visage d'albâtre de la Vierge.
Ah, oh, vous exagérez. Là.
Non, c'est ah, le non. nez de Cyrano sur l'enfant nouveau-né.
Non.
C'est une calamité. Avez-vous déjà vu quelqu'un dans une de ces vérandas grotesques qui prolifèrent ? Jamais. Glacé en hiver, brûlante en été, ce sont des aquariums sans eau, des bocaux à cornichons où les seuls cornichons sont ceux qui les ont fait construire, des éprouvettes pour observer la crudité des uns et des autres et surtout la cupidité. On peut se demander, mais que fait la police? Que fait le gouvernement? Ils ne font rien. Ils ont peur. Pourtant, il y a des dératisateurs. Il y a des désintoxicateurs, des déradicaliseurs. Eh bien, il est urgentissime de créer un corps de dévérandatisateurs. Il faut le faire avant qu'il soit trop tard, avant que ma femme, cédant aux prières de sa mère, vérandise à son tour notre gentilhommière bretonne du 18e qui, jusqu'à là, a résisté aux invasions barbares, aux raz-de-marée et même aux fenêtres en PVC.
Je vous trouve sévère, Gérard. Moi, c'est mon rêve. C'est pas le vôtre, Lucas ? Une véranda ?
Depuis ce que je viens d'entendre, moins.
Non, mais on est au printemps, on en rêve tous de la véranda. Je suis sûre que Serge Joncourt, il les aime, non ?
Bah oui, oui, pour cause.
Pourquoi ? Vous en avez une ?
Non, je suis vérandiste.
Ah, ah ouais, ça c'est un beau métier.
Autant vous dire que j'en connais un rayon sur la véranda et sur Monsieur Mordillat aussi, d'ailleurs. Figurez-vous qu'à une époque, il m'avait demandé de lui faire un devis.
Ah.
Alors c'est pourquoi j'aimerais apporter un élément d'explication à cette aversion étonnante que cet esprit éclairé, cet homme des Lumières, entretient à l'encontre du concept même de véranda. Car tout de même, qu'est-ce qu'une véranda sinon une ouverture ? Une ouverture d'esprit, de l'espace et du reste. Toute véranda est une ouverture vers le monde. Et en ce sens, un progrès. En cela, elle est l'expression la plus ergonomiquement harmonisée de la conquête de l'homme sur son environnement. Oui, je sais les vendre, mes vérandas.
Oui, ça c'est.
Alors, je suis bien sûr que vous tous, autour de cette table, vous nous ouvrez les yeux sur ces prodigieux panoramas dont nous abonde votre imagination féconde. Vous êtes vous-même un peu surpris qu'on puisse récriminer les vérandas, apport civilisationnel majeur. Mais bon, pour ma part, je ne suis pas étonné de la virulence de sa position. Qu'est-ce que vous voulez ? Il y a 8 mois, M. Mordillat nous téléphone suite à l'une de ses publicités qu'il aura vues à la radio, de ces publicités qui laissent songeurs et qui, en un sens, sont rudement efficaces. Parce que de nos jours, je peux vous le dire, tout le monde veut sa véranda.
Mais oui.
Y compris M. Mordillat. Oui, seulement le problème, c'est qu'il habite en centre-ville, à Paris-Centre même, et dans un immeuble même pas haussmannien, et qui plus est au 6e étage, sans ascenseur. Ah oui, alors bon, certes, en tant qu'installateur de véranda, j'ai les idées larges, mais un jour j'ai même installé une véranda dans un sous-sol, et une autre chez les résidents d'une studette qui habitait au 9e. Mais bon, ceux-là au moins avaient un ascenseur. Je suis conciliant, moi. Votre véranda, je vous l'installe où vous voulez, et même sur le terrain du voisin. J'ai les idées larges. Par contre, quand il s'agit d'installer une véranda dans un 2 pièces où il faut monter tout le matériel sur 6 étages à la force des mollets, alors là, vous imaginez le travail. Monter les 2 tonnes de béton et les 20 mètres de baie vitrée coulissante à triple vantaux sur un chromé. Et puisque monsieur ne voulait pas n'importe quelle véranda, mais le modèle Versailles, calqué sur la star de notre catalogue, le modèle anciennement appelé l'orangerie. Eh oui, 86 mètres carrés avec plus de lumière, volet roulant à commande électrique et occultation de toiture, châssis fixe à mur et ciment, montant en aluminium et triple pare-soleil déroulant. C'est quelque chose, l'orangerie. Hein. C'est le modèle des rois. 86 mètres carrés, vous en rendez. Ça en fait des studettes.
Mais en même temps, vous êtes costaud. Vous avez la force de monter tout ça, non ?
Justement.
Ouais.
Que voulez-vous ? Bien que notre ami n'ait pas d'ascenseur, sa véranda, on lui aura installé. On aura bien été obligé, puisque il avait fait le chèque d'acompte.
Ah.
Oui. Alors, bon, tout de même, comme la véranda était 3 fois plus grande que son appartement, et bien sa véranda, on la lui a installée dans le salon, voyez, en longueur, comme ça, de façon à ce qu'elle déborde un peu comme ça, jusque dans le couloir, c'est ce qu'on appelle les parties communes, quoi, voyez, en surplomb d'escalier de service, de sorte qu'on aura dû lui installer une trappe. Ce qui si bien que maintenant, il peut passer directement du 5e étage, qui est l'étage en dessous du 6e, je le rappelle, à sa véranda, sans même passer par le palier.
Trop
c'est grandiose.
Fort,
oui, c'est grandiose. Mm. Alors bon, les 35 mètres carrés de véranda restant, on aurait été obligé de lui faire en surplomb de l'avenue de Ménil, vous voyez, juste au-dessus des voies ferrées, au niveau de la gare de Lyon. Si bien que maintenant, pour aller de Paris, gare de Lyon, à Valence, M. Mordillat n'a même plus besoin de passer par les quais de la gare, mais il peut sauter directement dans le train en ouvrant la trappe pour... Vous l'aurez compris.
Oui. Bah oui, c'est pratique.
Non, c'est astucieux.
Oui.
Non, jusque-là, en fait, pour tout vous dire, M. Mordillat était content. À la limite, c'était trop beau. Seulement, que voulez-vous ? Le problème. Au bout de 3 semaines de véranda, l'aviation civile aura porté plainte. Et oui, à cause de ces halogènes surpuissants décuplés par le puits de lumière et les vantaux électriques, ça éclairait tellement dans sa véranda, au-dessus de la voie ferrée, et tout autour. Si vous voulez, il y avait tellement de lumière qui allait bien moins vers le sol que vers le haut, que de loin, les pilotes de ligne qui arrivaient sur Paris et qui ne connaissaient pas la véranda de M. Mordillat, eh bien, ils la prenaient chaque fois pour une tour de contrôle de l'aviation civile de Roissy. Évidemment, au bout du 10e Airbus qui se sera posé sur la zone d'aiguillage de Paris-Bercy, on comprend bien, la SNCF aura porté plainte à titre de concurrence déloyale. Bon. Sa véranda, la pauvre, on aura dû la démonter. Alors tout de même, en vertu des prodiges du recyclage de la mairie de Paris, les autorités de la ville en auront fait des Vélib de sa véranda. Oui, des Vélib, les fameux Vélib à panier ajouré, vous voyez. Et c'est sa véranda. D'ailleurs, le Vélib qui est un peu pompé sur le modèle Versailles. Le moment. C'est pas le lieu. Enfin, maintenant que vous comprenez pourquoi M. Mordillat est un peu amer quand il s'agit de parler de véranda. Par contre, puisqu'à toute chose, malheur est bon, eh bien, il se sera mis au vélo.
Ah ben, Cette nuit, on est passé à l'heure d'été, Jean-Bernard Pouy. Et l'heure d'été, c'est le signe évident du printemps pour nous tous. Et avec vous, c'est Vive le printemps, c'est un hymne au printemps que vous allez nous raconter, en quelque sorte.
Là, planté sur le trottoir des galeries farfouillettes au milieu d'une populace tiédasse qui rêvasse, qui pourchasse le sans-sas et le strass, j'observe en face le printemps. Et je pense absurdement au grand nettoyage du même printemps. Bien sûr, ce temps imparable où tout passe, tout casse, car ça prend trop de place, ça s'entasse dans votre palace, et surtout ça encrase votre calebasse, ça vous rend bêtasse, super schlasse, car ça décrasse la ragougnasse qui vous a servi sous la tignasse filasse de cerveau gelé par les glaces. Ah, l'hiver tenace, où l'on ressasse quand les corbeaux croassent. Tout ça, c'est fini. À la poubelle, les pulls irlandais et les chaussettes de randonnée. Fini les grogues, au rebut, les bonnets fourrés, les gants molletonnés, les surpiges en pilou et les sous-vêtements doublés en chachelic mordoré. Comme dirait Pierre Dac, maintenant, c'est le printemps. Les bestias deviennent salaces, les beaux jours encore un peu fadasses, même si les crapauds coassent et les pyjacas, les limaces s'entassent et s'enlacent, les sargasses s'embrassent, les rapaces perspicaces et voraces chassent les bécasses, les rascasses font du surplace à la surface. Mais le printemps, c'est l'espace où l'on se débarrasse de ce qui embarrasse, de ce qui agace, de la crasse, de la bouillasse, des liasses inefficaces, de paperasses dégueulasses, dont des dédicaces de Marguerite Duras. On efface une préface de Jacques Azélias, une postface d'Emmanuel Levinas, et au grenier ou sur la terrasse, avec un bon glace de vinasse d'Alsace et une part de fougasse dure comme de la caillasse, on efface les traces. On déplace les carcasses de cuirasse. On fracasse avec codasse les tasses de Saxe, avec sur une face une grognasse cocasse et sur l'autre une poufiasse blondasse. On remplace des essuie-glaces par des lave-glaces en plastiglas. On ramasse tout ce qui vous tracasse, de vieilles godasses, des échasses, bonnes pour la casse, des culasses, de vraies menaces, des besaces bonasses, des barcasses, des carapaces de nasses et de pinasses. On se décarcasse pour ne plus garder des ananas, plus vraiment coriaces que plutôt molasses, une vieille rosace fadasse, une statue biface en potasse lavasse de garde de chasse sagace, un hommage qui grimace, à la face pleine de crevasses, une paillasse couleur de chiasse, une photo de l'impasse Saint-Pancras d'Annemasse, une autre d'un brise-glace biplace, une autre encore d'un bidasse vivace ou même tenace, voire pugnace, qui enlace ou plutôt qui embrasse, voire cadenasse, une jocaste finasse, sans doute trace, sur une terrasse. On replace un vieux modèle monoplace, bref, l'angoisse, la poisse, allez, tout ça à la fricasse, alors que le printemps, c'est la volte-face fugace, loquace, que pourchasse les efficaces qui la condamnent par contumace, alors que le printemps, c'est l'espoir, pas l'abattoir pour les poires, ni le dépotoir de la ville d'Ortoir, ni le désespoir dans la cité d'Ortoir. C'est la fin de vos déboires. C'est enfin s'asseoir sur une balançoire. Fini la patinoire. Sortez vos arrosoirs. Vive la baignoire. C'est le moment de s'émouvoir, même s'il va pleuvoir. Fini de dormir comme un loir. C'est la victoire des contre-pouvoirs. Bonsoir, le foutoir. Pendant ce temps-là, avec le beau temps, les animaux reviennent, confiants. Ah non, pas les jaguars, ni les cougars, qui ne sont pas du terroir, mais plein d'oiseaux sur les perchoirs, qui viennent boire dans les mangeoires, les réservoirs, les abreuvoirs, les lavoirs et les bateaux lavoirs, avant de se retrouver sur leur nichoir, leur reposoir provisoire, leur gueuloir, comme aurait dit Flaubert, justement, tiens, le printemps, c'est aussi le salon du livre. Et on y va pour acquérir plein de bouquins, et tout le Saint-Frusquin, pour voir un palanquin d'auteurs, des mesquins, des coquins, des faquins, des requins à gros brodequins, des rouquins, des taquins, des verts coquins, mais d'autres aussi, beaux comme des mannequins, imposants comme des baldaquins, fiers comme des armoricains, furieux comme des vulcains, des pékins américains, sans doute des algonquins, ou des arlequins africains, des mexicains, des marocains républicains, des dominicains jamaïcains, des franciscains de Nankin, des copieurs de Franquin, bref, de la littérature, de l'imprimature, de l'aventure, de la fioriture, loin de la commandanture du bon goût. La littérature, c'est la clôture, la culture, l'écriture, la forfaiture, la fracture, l'imposture, le pur et l'impur, la lecture, l'ouverture, la nourriture, la posture, la pourriture, la rature, la rupture, la structure, la droiture. Alors, puisque vous êtes sur place, faites une cure.
Sur un air de bande de néon, on vous retrouve Pablo Gignoli, musique. Les papous, c'est dans la tête et c'est sur France Culture. Et c'est en direct aujourd'hui de Livre Paris à la porte de Versailles. Alors on va jouer maintenant avec des périphrases. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Au départ, il y a une toute petite phrase qui a un joli sens et qui dit clairement ce qu'elle veut dire. Ensuite, il y a trois périphraseurs qui vont passer, même quatre périphraseurs qui vont passer à tour de rôle sur cette phrase. Donc cette phrase, étant donné qu'ils vont à chaque fois choisir trois substantifs et remplacer leurs substantifs par des périphrases de leur imagination, eh bien cette phrase, elle va grossir jusqu'à devenir une courte nouvelle. Et c'est Patrick Beignet qui sera chargé de la décortiquer, cette nouvelle, de retrouver les périphrases et puis les mots qui sont cachés dessous. Alors, on commence avec vous, Jean-Bernard Puy. C'est vous qui avez reçu une phrase que j'aime bien et que je vous ai confiée.
La phrase est « Observons un grec ancien, il est enveloppé dans un drap, il tient un parchemin et il apporte au monde la civilisation. »
Voilà. Il y a du potentiel, c'est du Pierre Desproges. Je ne sais pas si vous l'aviez reconnu, mais bon, voilà, ça valait le coup de le dire. Et vous aviez le choix, l'embarras du choix même. Donc, qu'est-ce que vous avez choisi ?
J'ai choisi grec ancien, oui. Drap et civilisation. J'ai fait assez simple, parce que comme il y en a quatre derrière, ça risque de devenir relativement dément pour ce pauvre
Patrick Beignet.
Alors, grec ancien... Individu proto-historique qui mange de l'agneau grillé et qui fait encore confiance à l'Europe.
C'est bien, il y a une assez jolie gravité, il y a des gens qui applaudissent. Ouais.
Drap, c'est voile nocturne qui peut servir à cacher sa nudité avant de se transformer bien plus tard en suaire.
Ah oui, il est pas très joyeux aujourd'hui, Jean-Bernard Pouy.
C'est dimanche. Et civilisation, ensemble de principes évidents qui grandissent des gens qui ne veulent malheureusement pas grandir.
C'est un peu critique aussi, mais on a le droit. Hein. Donc vous glissez vos périphrases dans la phrase de Pierre Desproges.
Ce qui donne... Ouais. Observons un individu proto-historique qui mange de l'agneau grillé et qui fait encore confiance à l'Europe. Il est enveloppé dans un voile nocturne qui peut servir à cacher sa nudité avant de se transformer bien plus tard en suaire. Il tient un parchemin et il apporte au monde un ensemble de principes évidents qui grandissent des gens qui ne veulent malheureusement pas grandir.
Très joli. Alors, je ne vous ai pas demandé, Patrick Beignet, quand vous avez découvert la phrase de Desproges avec laquelle nous avons joué, est-ce que vous avez été étonné parce que vous passez après tout le monde ?
Je croyais que c'était par gentillesse que vous ne m'aviez pas demandé.
Oui.
Je n'ai pas reconnu Desproges. Je n'ai pas reconnu grand-chose, à vrai dire.
Non.
Et...
Mais vous êtes arrivé à une phrase.
Et oui, il fallait bien.
Bon, très bien. Alors, à ce moment du jeu, le texte de Jean-Bernard Pouy est arrivé à Eval Massy, qui devait, à son tour, choisir trois substantifs.
Et j'ai choisi l'agneau grillé, parchemin et des gens.
Ouais.
Alors voilà. Pour l'agneau grillé, c'est un morceau de choix du baron au quartier en passant par la souris. C'est la découpe de l'agneau.
Oui, n'est-ce vous pas n'avez pas l'air d'accord, Lucas.
Ça, si.
Ah, non, la souris d'agneau, hein. Oui.
Parchemin, c'est un sous-produit animal autrement apprêté que dans les boîtes de pâté pour chien ou chat. Il y a toujours des sous-produits animaux.
Allez.
Voilà. Et Jean, alors, c'est des masses plus ou moins anonymes, localement chantées par Jacques Brel. Vous connaissez ces gens-là. Voilà.
Très bien. Alors, vous instillez vos périphrases dans le joli texte de Jean-Bernard Pouilly.
Et ça a donné un autre joli texte que je vais vous lire. Observons un individu proto-historique qui mange un morceau de choix du baron au quartier en passant par la souris et qui fait encore confiance à l'Europe. Il est enveloppé dans un voile nocturne qui peut servir à cacher sa nudité avant de se transformer bien plus tard en sueur. Il tient un sous-produit animal autrement apprêté que dans les boîtes de pâté pour chien ou chat, et il apporte au monde un ensemble de principes évidents qui grandissent des masses plus ou moins anonymes localement chantées par Jacques Brel, qui ne veulent malheureusement pas grandir.
On n'est pas si loin des proches, hein?
Non, hein,
si on rappelle la phrase de Desproges, observons un grec ancien, il est enveloppé dans un drap, il tient un parchemin et il apporte au monde la civilisation. Bon, votre texte est passé dans les mains de Jacques Jouy. Qu'est-ce qu'il en a pensé, Jacques Jouy? Il a compris?
Non, j'ai rien compris, mais là, je viens de tout comprendre, parce que Eva l'a lu avec beaucoup de conviction et nettement plus clair à ce
bien
moment-là.
Bien sûr.
Oui.
Alors, vous avez pris trois substantifs.
J'ai pris individu,
ouais.
Nudité, Jacques Brel.
Ah, comme substantif, Jacques Brel. Ouais, oui, pourquoi pas, vous aviez le droit. Oui, oui. Alors.
Individu, pauvre air sorti de son clan à cause de Descartes pour se retrouver tout seul comme un gland sans défense.
Oui, c'est pas joyeux non plus.
Nudité, ah là, c'est plus joyeux.
Ouais.
État de nature érogène, hanté prêt à porter et proto-haute couture. Jacques Brel, grand cheval qui, se croyant moche comme un pou, ne cesse de bêler pour ne le faire savoir.
Ça, c'est très méchant. Non ? Bon, alors...
C'est méchant, mais juste.
Glissez tout ça dans le texte d'Eva Almassy.
Observons un pauvre air proto-historique sorti de son clan à cause de Descartes pour se retrouver tout seul comme un gland sans défense, qui mange un morceau de choix du baron au quartier en passant par la souris et qui fait encore confiance à l'Europe. Il est enveloppé dans un voile nocturne qui peut servir à cacher son état de nature érogène hanté prêt à porter et proto-haute couture avant de se transformer bien plus tard en sueur. Il tient un sous-produit animal autrement apprêté que dans les boîtes de pâté pour chiens et chats. Et il apporte au monde un ensemble de principes évidents qui grandissent des masses plus ou moins anonymes localement chantées par ce grand cheval qui, se croyant moche comme un pou, ne cesse de bêler pour ne le faire savoir, masses qui ne veulent malheureusement pas grandir.
Oui. Non, mais c'est très costaud. Hein. Ouais. Très, très costaud. Alors, Lucas Fournier, je ne vous demande pas non plus si vous avez compris de quoi il s'agissait.
Dans l'ensemble, oui.
Bon.
Dans les détails, non.
Très bien.
Mais c'est un très beau texte qui est très technique en même temps, donc j'ai voulu lui apporter un peu de poésie.
Ouais.
Et donc j'ai convoqué trois poètes, bon, Victor Hugo parce que sinon ça l'aurait vexé, Racine, Baudelaire et notre ami Henri Cueco qui est un peintre, poète, papou, pétomène parfois, qui est parti peindre au paradis récemment. Alors le gland, c'est Hugo, enfin je dis pas que Hugo est un gland, non. Gland, fruit viril, qu'aimait à récolter Henri Cueco et qui tombe sans le farouche bruit que font dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour les bûchers d'Hercule. Pour le bûcher d'Hercule. Pour le bûcher d'Hercule.
Non, mais Hercule, c'était joli aussi. Hein.
Le suaire,
oui.
C'est un paréo, c'est quand même plus gai. Paréo sans ornement, porté dans le simple appareil d'une ex-beauté qu'on ne peut arracher au sommeil. Et enfin, la masse baudelairienne, bien sûr. C'est la multitude des mortels avec qui l'universelle communion offre des jouissances fiévreuses dont seront éternellement privés l'égoïste fermé comme un coffre et le paresseux interné comme un mollusque.
C'est très très beau. Hein. On se demande un peu ce que ça va donner.
Et du coup, Du coup, ça donne un truc qui est solide, hein.
Ouais.
Alors, observons un pauvre air proto-historique sorti de son clan à cause de Descartes pour se retrouver tout seul, comme ce fruit viril, sans défense, qui met à récolter Henri Cueco et qui tombe, sans le farouche bruit que font dans le crépuscule les chaînes qu'on abat pour le bûcher d'Hercule. Ce air qui mange un morceau de choix, du baron au quartier en passant par la souris, et qui fait encore confiance à l'Europe, il est enveloppé dans un voile nocturne qui peut servir à cacher son état de nature érogène, hanté, prêt à porter, et proto-haute couture, avant de se transformer bien plus tard en paréo, sans ornement, porté dans le simple appareil d'une ex-beauté qu'on ne peut arracher au sommeil. Il tient un sous-produit animal, autrement apprêté que dans les boîtes de pâté pour chien ou chat, et il apporte au monde un ensemble de principes évidents qui grandissent la multitude des mortels avec qui l'universelle communion offre des jouissances fiévreuses dont seront éternellement privés l'égoïste fermé comme un coffre et le paresseux interné comme un mollusque, cette multitude plus ou moins anonyme, localement chantée par ce grand cheval qui, se croyant moche comme un pou, ne cesse de bêler pour nous le faire croire, cette multitude des mortels avec qui l'universelle communion offre des jouissances fiévreuses qui ne veulent malheureusement pas grandir.
C'est ébouriffant, hein, et tout ça est parti de Pierre Desproges. Observons un grec ancien, il est enveloppé dans un drap, il tient un parchemin et il apporte au monde la civilisation. Alors, Patrick Beignet, vous êtes emparé du très long texte, mais très joli texte de Lucas Fournier. Et vous allez maintenant l'ausculter, l'analyser.
Oui.
Eh bien, vous
me connaissez bien, François.
Ouais.
Je n'ai pas pu m'empêcher de l'ausculter et de l'analyser. J'ai tout de suite reconnu la patte de Lucas Fournier, l'espèce de fébrilité sexuelle adolescente qui parcourt généralement ses textes.
Ouais.
J'ai néanmoins essayé de ne pas perdre mon sang-froid. Et j'ai été porté tout de suite par la fin. Le dernier paragraphe, parce que j'ai divisé ça en paragraphes de façon arbitraire, la fin du texte m'a tout de suite donné la clé, ce qui est bien rassurant quand on se trouve devant une sorte de magma aussi indifférencié. Et lorsque j'ai lu qu'il apporte au monde un ensemble de principes évidents qui grandissent la multitude des mortels, l'universelle communion qui offre des jouissances fiévreuses, j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de la Déclaration des droits de l'homme.
Hein. Ah.
C'est un texte qui a un rapport avec la Révolution française.
Et la jouissance fiévreuse.
Voilà. Et à partir de là, de cette idée d'universelle communion,
oui,
j'ai pu retrouver le sens auquel Desproges, visiblement, n'avait pas pensé, mais j'ai pensé pour lui. Et donc, tout va naître de là. Donc, je ne sais pas si c'est nécessaire que je détaille...
Un peu quand même.
Hein,
oui.
pour la fin,
oui,
du texte. Hein,
oui.
Tout nous renvoie à cette idée de la Déclaration des droits de l'homme, de la fièvre révolutionnaire. Et on sent qu'il y a beaucoup de tensions, évidemment. Hein. Il y a un héros, un personnage qui essaie de prendre le dessus, hein, qui est certainement un meneur des événements historiques, c'est celui qui est traité de grand cheval, se croyant moche comme un pou, et qui ne cesse de bêler pour nous faire savoir. Bon, le bêlement, c'est le propre du grand orateur révolutionnaire, hein, vous êtes tous d'accord. Alors, de qui s'agit-il ?
Oui.
Je suis remonté aux premières lignes du texte, à l'évocation de ce pauvre air proto-historique sorti de son clan à cause de Descartes pour se retrouver tout seul. Alors là, j'ai tout de suite, dans l'optique révolutionnaire, tout de suite vu qu'il y avait un point de vue très anti-aristocratique. Hein. Les aristocrates, la noblesse pour la révolution, c'est la proto-histoire. Hein. C'est le monde d'avant qui n'a pas le droit à l'existence. Donc tout commence à ce moment-là, à cause de Descartes, puisque le cogito cartésien, hein, oui, a permis le développement des Lumières, d'où la Révolution. Hein. Donc il s'agit, on le voit tout de suite, d'un conflit entre Révolution et aristocratie. Alors il y a la citation de Victor Hugo, on pourrait dire une proto-citation de Victor Hugo, hein, et la question du fruit, Alors là, je me suis trouvé devant des problèmes botaniques, parce que, évidemment, le texte donner des indices qui faisaient pencher, si je puis dire, vers le gland, hein, le chêne qu'on abat, etc. Mais le seul, le seul lien botanique que je pouvais établir à partir de Cueco, c'est la pomme de terre,
hein,
qui a quand même été la principale source d'inspiration pour une grande partie de son œuvre. Est-ce que la pomme de terre fait un farouche bruit en tombant, hein, moins qu'un chêne certainement, mais comme je ne suis pas très, très fort en botanique, j'étais incapable de donner des noms de pommes de terre qui font du bruit en tombant. Souvent, j'ai constaté, les pommes de terre tombent peu, mais il me semble qu'il y a une espèce de pomme de terre qui fait un petit bruit en ne tombant pas, c'est la charlotte. Et étant donné que l'ignorance de mes prédécesseurs en matière botanique est aussi grande que la mienne, je me suis dit, là, il y a un à peu près. Donc, la charlotte. À quoi nous renvoie la charlotte dans l'atmosphère révolutionnaire? C'est Charlotte Corday, évidemment.
Ah, mais oui, mais oui.
Donc, traité de pauvre air proto-historique par je ne sais qui des prédécesseurs, parce qu'effectivement, elle a accompli un grand geste contre-révolutionnaire, de là à traiter d'abord de pauvre air qui est plutôt masculin, hein, et de proto-historique, c'est un peu violent, mais enfin, on va voir ce qu'on peut faire de ces contraintes. Alors, il me reste simplement dans les lignes centrales que je n'ai pas encore abordées, à partir de la logique que j'ai magnifiquement dégagée, hein, de montrer que ces lignes centrales montrent l'acte de Charlotte Corday, c'est-à-dire la mise à mort de Marat. Hein. Comme c'est une optique progressiste, révolutionnaire et anti-aristocratique, Charlotte Corday est traitée de cannibale. Hein. Son geste de poignarder Marat, c'est manger un morceau de choix au baron, hein, du baron, pardon. Donc, on est dans la boucherie. Effectivement, c'est le massacre de Marat relève de la boucherie, mais j'ai jamais lu chez les historiens sérieux que Charlotte Corday avait ensuite mangé sa victime, mais c'est bien ce qui est suggéré ici. Hein. Alors tout le reste de la partie centrale du texte s'efforce de nous prouver au fond que Charlotte Corday était un homme, hein, ou un transsexuel. Hein. Alors je pense que c'est l'image de Jeanne d'Arc qui a dérivé, qui a inspiré les auteurs de ce texte. Hein. Il y a certainement un côté masculin de Charlotte Corday. Il y a une citation de Racine, on l'a vu, hein, enfin une ex-citation de Racine, une ex-beauté qu'on peut arracher au sommeil. Qu'est-ce que ce vers de Racine vient faire ici? À mon avis, c'est encore une erreur de mes prédécesseurs. Comme vous le savez sans doute, Charlotte Corday était une descendante de Corneille. Hein. Alors, chez des gens pareils, Corneille, Racine, tout ça, c'est pareil. Mais c'est encore un indice qui nous montre qu'il s'agit de Charlotte Corday. Voilà, je crois que j'ai rendu compte de l'essentiel
très bien, très brillamment, du
texte. Hein, et je crois qu'on peut le résumer, hein, en disant ce qui va vous apparaître comme une platitude, mais bon, on travaille comme on peut. Charlotte Corday a tué Marat à cause de la Déclaration des droits de l'homme.
Jeanne Carillon pour une chanson qu'elle a écrite sur l'air de Kissas et ça s'appelle Tête à tête et c'est Pablo Genioli au bandoneon en musique.
J'adore tes mirettes, j'admire tes gambettes, je raffole de tes bouclettes. Sur ta tête, bien faite, ta tête. Dînons en tête à tête, mais pas besoin de fourchette pour manger les crevettes. Les têtes, je les ai têtes. Ta tête me prend la tête, ta binette me rend folle. Tu me fais tourner la tête, des tire tes lunettes, regarde par la lorgnette et trouve ma cachette. Idée derrière la tête. Fais tomber ta chemisette, enlève tes chaussettes, viens jouer à la grimpette. Sous la couette, ma tête te guette. Tire la chevillette, ma bobinette est en feu. Tête bêche et galipette, tête à queue dans mon pieu. Continuons la fête et compte-moi fleurette sur cette chansonnette que je chante à tue-tête, que j'ai toujours en tête. Ta tête en tête, ma tête. Ouais.
Dernière séquence de ce numéro des Papous dans la tête sur France Culture. Les Papous pour Livre Paris, ce sera le DLA, diagnostic littéraire à l'aveugle. Alors, Patrick Beignet, c'est vous qui avez fait le choix du texte en jeu. Vous voulez bien le distribuer, Jean-Bernard Puy, Serge Joncourt, Éval Massy, Gérard Mandilla. Voilà. Alors, de quoi s'agit-il pour ceux qui vraiment ne savent pas ce qu'est le DLA? Patrick Beignet a pioché un livre dans sa bibliothèque et il en a des livres, Patrick Beignet. Et il a feuilleté et puis isolé une douzaine de lignes qui lui paraissaient faire mystère. Et il nous les propose à l'aveugle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun indice. On va tous réfléchir, vous aurez le droit de vous exprimer aussi si vous le souhaitez. On écoute attentivement. Le but du jeu, eh bien, c'est d'en trouver l'auteur, évidemment, mais ce n'est pas une devinette. Il faut avancer des arguments littéraires si possible. On écoute Patrick.
Il y avait quelque chose d'effroyablement ironique dans cet envoi du libraire Bachelin, retardé d'un mois, attendu par le malade avec tant d'impatience et reçu par le mort. Pauvre ami, c'était son dernier livre, celui sur lequel il comptait le plus. Avec quel soin soucieux ses mains, déjà tremblantes de fièvre, avaient corrigé les épreuves. Quelle hâte il avait de tenir le premier exemplaire. Dans les derniers jours, quand il ne parlait plus, ses yeux restaient fixés sur la porte. Et si les imprimeurs, les protes, les brocheurs, tout ce monde employé à l'œuvre d'un seul avait pu voir ce regard d'angoisse et d'attente, les mains se seraient hâtées, les lettres se seraient bien mises en page, les pages en volume pour arriver à temps, c'est-à-dire un jour plus tôt, et donner au mourant la joie de retrouver, toute fraîche dans le parfum du livre neuf et la netteté des caractères, cette pensée qu'il sentait déjà fuir et s'obscurcir en lui.
C'est un joli texte. Nous sommes au Salon du Livre. C'est un texte qui parle des livres, évidemment. Une première impression comme ça, Éval Massy.
Bah, j'ai une très mauvaise impression. Je pense que Patrick Beignet s'est trompé. C'est un texte pour le 31 octobre, les défunts, et pas pour le printemps. Cela dit, il y a quand même des choses qu'on partage et qui sont très agréables, comme l'odeur, enfin, même le parfum du livre neuf et la netteté de caractère, où on retrouve la pensée de l'auteur, parfois, s'il y a pensée au départ.
Ah, mais il y a sûrement pensée. Une impression, Gérard Mandilla.
Bien, moi je trouve que c'est un très beau texte qui appartient pour moi au domaine des soyeux, de ces écrivains qui jouent du violoncelle en écrivant. Et je crois qu'il faut chercher quelqu'un qui a un goût pour la musique qui a écrit ce texte.
Ah, qui serait à la fois écrivain et instrumentiste, peut-être.
Peut-être, je ne sais pas s'il est instrumentiste. En tout cas, c'est quelqu'un qui aime la musique, qui comprend la musique et qui, finalement, en joue en l'écrivant.
C'est joli, ça. C'est une bonne idée, même, non, Serge Joncourt?
Ah oui, c'est une très bonne idée.
Vous allez la saisir.
Non, il manque la dimension militante de ce texte, puisque c'est un texte profondément... militant, je dirais même plein de colère, et qui là démontre bien, si vous le voulez, les problèmes, les soucis, voire les drames qui sont liés au retard de livraison de certains vendeurs par correspondance. Et qui dit bien que son livre, il faut l'acheter en librairie et non pas prendre le risque, comme ce malheureux personnage, d'attendre un mois et de voir le libreur sonner chez un mort. C'est ça ce qu'il veut dire. C'est donc, à mon avis, un texte postérieur aux années 2000.
Très bien.
De fait.
Ah mais oui, ça date, c'est le carbone 14, mais Jean-Bernard Pouille n'est pas d'accord.
Parce que là, c'est librairie Bachelin, mais ça pourrait arriver avec Amazon, hein. Il se gourre, le truc est coincé dans un coin et tu le reçois un mois après. Non, pour une fois, moi je suis assez content. C'est un texte qui est écrit en français quand même, enfin, qui est relativement bien écrit. Ce qui quand même n'est pas souvent le cas. Parce que généralement c'est pour nous donner des pistes. Mais là, les pistes sont vraiment fines parce que c'est très sage, très bien écrit et pas intéressant, mais enfin très bien écrit. Simplement, il y a un mot que je connais pas dedans, moi. Les protes.
Les protes. Est-ce que Patrick Beigny a le droit de nous dire ce que c'est?
Oui, c'est en somme un chef d'équipe à l'imprimerie, dans une imprimerie.
Ah, merci. Merci. Eval Massy, est-ce que vous avez un peu progressé dans...
Mais j'ai progressé, c'est comme souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les écrivains sont surreprésentés dans les romans. Parmi tous les métiers, vous avez quand même des mineurs avec Zola, enfin avec Zola on avait tous les métiers. Mais plus on arrive vers le 20e puis le 21e siècle, et plus vous avez de romanciers dans les romans. Et du coup aussi au cinéma qui adapte les livres. Et donc c'est ce genre de narcissique, donc l'écrivain connaît, peut-être que c'est une anticipation sur sa propre fin, que son personnage s'inspire de lui, peut-être c'est une œuvre quand même de la maturité.
Est-ce que ce serait du Serge Joncourt? Parce qu'il écrit beaucoup sur lui-même écrivant, non? Cher Armandia, argument.
Non, je ne crois pas que ce soit du Serge Joncourt, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui, justement, a exercé le métier d'imprimeur. Ouais. Avant d'écrire des livres, il les a imprimés. Et donc c'est pour ça qu'il connaît le vocabulaire technique et qu'il y a aussi chez lui cette angoisse du livre fini que connaissent tous les imprimeurs, parce qu'il ne faut pas que ça macule sur la page, il ne faut pas le couper de travers au massicot, il faut le brocher comme il faut. Et je crois qu'il y a là quelque chose qui me fait penser à un auteur qui aurait une origine populaire et qui aurait d'abord travaillé, ce qui est très rare pour un grand nombre d'auteurs, beaucoup comme Jean d'Ormesson n'ont jamais rien fait de leur vie. Donc voilà, quelqu'un qui, pour une fois, parle de quelque chose qu'il connaît.
Bon, c'est pas mal, et qui en plus, pour vous, est musicien. Alors, une petite question, allez Jean-Bernard, puis évidemment c'est écrit en français, on est d'accord.
Non mais avant de répondre, je pense que c'est un texte quand même qui est amusant. Il se moque. C'est un texte moqueur plutôt qu'amusant.
D'accord.
Il y a le côté effroyablement ironique. Faut pas pousser non plus quand même. Bon. Et après, pauvre ami, son dernier livre, ses mains tremblantes. Moi, je pense qu'il se moque.
D'accord. Ça pourrait être un pastiche.
Non, c'est pas du tout un pastiche. Mais c'est quelqu'un qui est écrivain et qui se moque des autres écrivains, ce qui est, ma foi, normal.
Bon, alors, il est 13h55. Vous écoutez France Culture. Il faut déjà passer au nom. C'est un petit peu frustrant. C'est le direct. Jean-Bernard Pouille.
Moi, je dirais Maupassant.
Maupassant. Un Maupassant pour Pouille. Serge Joncourt.
Oui, alors non, effectivement, il a été imprimeur, il a été auteur, il a été un peu tout. Il a été visionnaire dans la mesure où il anticipait bien les problèmes des retards de livraison. C'est Balzac.
Balzac. Que des grands noms. Eval Massy.
André Gide.
Ah, c'est pas mal non plus. Ah oui. Et Gérard Mandilla.
Jules Vallès.
Alors, on vous propose quatre noms, Patrick Beigny. Guy de Maupassant pour Jean-Bernard Pouy, Honoré de Balzac pour Serge Joncourt, André Gide pour Eval Massy, Jules Vallès pour Gérard Mandilla. Y a-t-il un gagnant? Ce serait un miracle.
Il n'y a pas de miracle aujourd'hui, non.
Bah, tant pis.
Tant mieux.
Aucun des noms cités ne figure dans vos trois.
Non, c'est ce qu'on appelle l'absence de miracle.
D'accord. Alors, vous nous proposez...
Je vous propose trois noms.
Oui.
Dostoïevski, Alphonse Daudet, Charles Dickens.
des très beaux noms aussi. Hein. Il y a un monsieur qui a l'air d'accord, je ne sais pas avec lequel de ces noms, mais Jean-Bernard Puy.
Non, il n'y a pas Jean-Bernard Puy. Alors, n'importe quoi. Mais moi, je vais dire Alphonse Daudet parce que je pense que c'est un texte écrit en français quand même.
D'accord.
Qui n'a pas eu de traduction.
Serge Joncourt.
Oui, Alphonse Daudet parce que librairie Bachelin, c'est...
C'est son nom, oui. Oui. Il la connaît.
Oui, et puis en même temps, c'est très drôle parce que si le livre était arrivé à temps, il aurait donné un grand sourire de joie aux morts. Enfin, c'est quand même...
Ouais.
C'est passé dans le texte sans qu'on s'en rende compte vraiment. Mais enfin, en fait, c'est un texte très drôle. Hein.
Mais c'est ce qu'a dit Jean-Bernard Puy.
Mais il l'a dit aussi, oui.
Oui, un petit peu.
on est d'accord sur tout, finalement.
Eva Almassi, alors
En tout cas, j'exclus totalement Dickens. C'était ça, le troisième nom.
Oui.
J'ai bien entendu, ça m'étonne tellement. Donc j'exclus, il n'y a pas assez d'esprit. Moi aussi, ça me paraissait écrit en français, et donc ce serait Daudet, mais il y a un petit problème dans le texte dont je n'ai pas parlé, c'est la porte juste avant les protes. Et c'est peut-être donc une traduction quand même, donc très courageuse, je vais prendre Dostoïevski pour le côté très sombre, très très sombre.
D'accord, et pour Gérard Mordillard hein?
Eh bien, moi aussi, je vais prendre Dostoïevski qui aimait beaucoup la musique et qui savait ce qu'était la vie puisqu'il a été dans un camp. Et non, je crois que c'est du Dostoïevski.
Alors, nous avons deux Dostoïevski pour Eva Almassi, Gérard Mordillard, deux Alphonse Daudet pour Jean-Bernard Puy, Serge Joncourt. Personne n'a misé sur Dickens. Est-ce qu'il y a un ou deux ou zéro gagnant?
Il y a deux gagnants.
Oui.
Et malheureusement, comme si souvent dans la vie, le courage n'est pas récompensé, c'est-à-dire que c'est Alphonse Daudet. Mais ils n'ont aucun courage, Jean-Bernard et Joncourt, ils vont à l'évidence, alors que j'avais proposé, au contraire, de résister à cette évidence du
Bravo
français.
Bravo à vous deux, des papous dans la tête, en direct, en public. Merci à tous d'être venus pour Livre Paris. Équipe technique et de réalisation, Anne de Pelchin, Gilles Manet, Christophe Michou. Chargé de production, Rémi Gouriot. Merci à vous et merci à eux. Au revoir.
Quoi?